Bonjour, merci Étienne. À plusieurs points, tu as parlé de ce qu'on va voir maintenant. Je me suis dit, j'allais peut-être rester assis, mais après vous trouveriez le temps long parce que ça ferait un grand vide. Alors je vais essayer de le remplir. Bon, cela dit, je suis un peu dans le même état qu'Alex ce matin. Il n'avait pas l'air d'avoir les idées bien claires tout à l'heure. Et moi ce matin, j'ai du mal aussi. Mais bon, on compte sur le Seigneur. Il est là pour nous prendre par la main en permanence et nous aider. Alors on va continuer par prier brièvement. Merci Seigneur déjà pour tout ce que tu nous as dit. Ta parole est la vérité Seigneur et combien nous en avons besoin pour apprendre plus de toi. Merci de nous avoir laissé cette longue lettre qui se suffit à elle-même, qui contient toute la vérité. Et merci pour ton esprit qui nous éclaire et qui nous aide à la comprendre. Guide-nous encore ce matin, Seigneur. Amen. La dernière fois que je vous ai parlé, c'était à la fin du mois d'août, on revenait de vacances, et je vous avais parlé de la grâce. Ça avait marqué plusieurs personnes. Je m'en réjouis, je dis merci Seigneur. Mais c'était une première partie. On a la suite aujourd'hui. Et parce que la grâce, c'est quelque chose que Dieu donne délibérément, gratuitement. Mais il y a une suite. Elle appelle autre chose derrière elle. Et ce matin, je vous propose de nous pencher sur ce que la grâce va générer en nous, doit générer en nous, qui l'avons reçue. Parce que la grâce, quand on l'a reçue, inexorablement, si on l'a vraiment reçue dans notre cœur, elle doit nous amener à autre chose. On va voir un premier verset dans Romains. Donc on va passer pas mal de temps dans Romains ce matin, même si on va voir quelques autres textes. Romains 2, 4. J'entends quelques pages se tourner. On n'entend pas les pages des tablettes ou des téléphones qui contiennent eux aussi la Bible maintenant. Alors, c'est un verset que je... Il y aurait tout le contexte à lire. On lira quelques versets de ce contexte. Je ne veux pas le sortir de son contexte, mais « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité ?» Écoutez bien ce morceau de verset. « Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » La bonté de Dieu, la grâce de Dieu nous pousse, doit nous pousser à la repentance. Donc, se dire « Ah, Dieu me fait grâce, c'est merveilleux. Il a pardonné mes péchés, c'est merveilleux. » Mais si à aucun moment tu ne décides de te repentir, tu ne tires pas profit de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu n'a aucun bénéfice pour toi. Le miracle de la grâce, si tu veux qu'il s'accomplisse dans ta vie, il est nécessaire de passer par la repentance. Sans cette repentance, on perd un peu le bénéfice de la grâce. Cette grâce, elle est offerte à tous, mais ne la prennent que ceux qui se repentent devant Dieu. Comment pouvons-nous jouir de la bonté de Dieu sans nous remettre en question à un moment? Comment pouvons-nous jouir de la bonté de Dieu sans tomber à genoux devant lui pour dire « Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais que ta grâce est infiniment bonne et je m'incline devant toi, je me prosterne devant toi, je suis pécheur, je reconnais que je suis pécheur. » La grâce de Dieu, comme c'est écrit, on vient de le lire, elle doit nous pousser à la repentance. Si on ne veut pas suivre ce chemin de repentance, on rate le bénéfice de la grâce que Dieu nous a donnée. Au verset 5, mais, donc c'est la suite, hein, on vient de lire, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Aujourd'hui, on bénéficie de la grâce. Au jour du jugement, si on n'est pas passé par la repentance, on sera soumis à la colère de Dieu. C'est moins agréable à entendre, hein, que la grâce. Mais aujourd'hui, nous sommes encore dans ce moment de grâce. Mais nous savons tous qu'un jour, il y aura un jour de vengeance. Il y aura un jour de colère. Le jugement, quand le jugement de Dieu tombera, on ne parlera plus de grâce. Les dés seront jetés. Et pour nous qui allons mourir un jour, cette période de grâce, elle s'arrêtera au moment de notre dernier soupir. Une fois qu'on aura lâché notre dernier souffle de vie, si on n'est pas passé par la repentance, si on n'a pas accepté la grâce de Dieu dans notre vie, c'est terminé. On a perdu ce que Dieu, le cadeau que Dieu nous offrait, parce qu'on ne l'a pas saisi, on ne l'a pas pris. On est d'accord ? Et en fait, cette immense grâce, cet amour, ce sera une colère contre nous parce qu'on n'aura pas décidé de tirer bénéfice, de saisir à pleine main la grâce de Dieu. Et il nous fera faire face, il nous faudra faire face au jugement de Dieu, comme c'est écrit là, qui rendra à chacun selon ses œuvres. On va continuer. La grâce de Dieu, elle nous pousse donc à la repentance et elle nous pousse aussi à croire en lui. En même temps que cette repentance surgit en nous, cette profonde croyance en son existence doit naître dans notre cœur. Si tu entends parler de la grâce, que tu veux la saisir, inexorablement, cette foi va jaillir dans ton cœur. Et tu vas te mettre à croire de tout ton cœur que Dieu existe. Et ça, ce sont les premières étapes qui arrivent lors d'une conversion. On est poussé à la repentance quand on reconnaît que Dieu est grand et qu'il nous aime. On s'incline devant lui et on croit en lui. On croit qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous sauver de nos péchés, pour pardonner nos péchés et nous faire vivre une vie nouvelle. La grâce de Dieu nous pousse aussi à faire des actions pour lui, à faire des choses pour lui. Alors dans les choses qui ont été citées, il y a venir à l'Église. Mais comme Étienne l'a très bien dit, les choses que Dieu nous demande va nous pousser à faire quand on a bénéficié de sa grâce, elles sont différentes pour chacun de nous, selon l'appel que Dieu nous a donné, selon l'éclairage que Dieu vient apporter par son esprit dans notre vie. Et la Bible ne cite pas une liste de choses que nous avons à faire. Et de toute façon, nous ne pouvons pas non plus répondre à tous les besoins qui existent sur la terre parce que nous sommes chrétiens, que nous avons donné notre vie au Seigneur. Chacun, nous sommes des pierres vivantes et nous avons chacun des missions différentes à mener en réponse à ce que Dieu met sur notre cœur. Et c'est vrai que nous n'avons pas à nous juger les uns les autres. Un tel, il fait pas ci, un tel, il fait pas ça. Chacun est responsable devant Dieu de la gestion de son temps et de ce qu'il va faire. C'est quelque chose qui se passe entre Dieu et toi. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu as été touché par la grâce, forcément à un moment, tu vas avoir envie de faire des choses pour Dieu. Parce que tu auras reçu son amour dans ton cœur et tu vas avoir envie de faire des choses pour lui. Dans Jacques, on va aller le chercher. Dans Jacques 2, 18, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Et là Jacques répond, tu crois qu'il y a un seul Dieu et tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que ta foi sans les œuvres est inutile? Tu as été touché par la grâce, tu t'es repenti, tu bénéficies de la grâce de Dieu, tu as la foi en lui. La foi maintenant appelle autre chose, les œuvres. On voit, la mécanique se met en route. Tout ce qui découle de la grâce de Dieu se met en route. Avec la foi, doivent venir les œuvres. Parce que si tu crois dans ton cœur et qu'il ne se passe rien d'autre que cette croyance, ben tu es, comme ça existe dans la bouche des catholiques, je suis croyant, mais je ne pratique pas. Je suis un croyant non pratiquant. Ben, un croyant non pratiquant, ben, il croit, mais ben, les démons sont comme lui. La Bible nous le dit là dans Jacques, hein. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, bah tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Mais ce sont des démons. Croire tout seul, voilà ce que dit Jacques de la part de Dieu. Veux-tu savoir, ô homme vain, que ta foi sans les œuvres est inutile? Je me souviens quand j'étais enfant, dans les tournesols, j'en voyais un là, tout à l'heure, il y avait ce parallèle qui était fait de la foi sans les œuvres. Et il y avait l'image d'une barque avec deux rames. Vous savez, une barque, ben, pour avancer, il faut deux rames. Hein. Et puis, ben, si on prenait qu'une rame, vous savez ce qui se passe, hein. Et si on prend l'autre, ben, on tourne en rond dans notre vie. Et si on veut vraiment avancer, il faut les deux rames. La foi d'un côté et les œuvres de l'autre. Parce que notre foi en Dieu, le bénéfice de la grâce que nous avons eue, il nous pousse forcément à croire et à agir. Si tu crois tout seul, il manque quelque chose à ta vie. Il faut forcément faire des choses pour Dieu. Alors faire des choses, ce n'est pas de se lancer dans l'activisme. Hein. Non, c'est comme Étienne l'a très bien dit. Ça te regarde, toi et Dieu. Cherche la face de Dieu. Et il va te mettre sur le cœur ce qu'il attend de toi. Et il n'y a personne qui va le dire à ta place. Il n'y a personne qui doit te dicter. Mais c'est ta conscience qui doit te dicter de consulter Dieu et de te tenir à sa disposition. Et il va te mettre des choses sur le cœur. Si tu es sincère avec lui, il va forcément te le dire. C'est une évidence. Alors on doit chercher cet équilibre pour avancer. Avancer. Avancer avec Dieu. Parce que la foi, c'est facile hein, de croire en Dieu. Agir pour lui, ça nous prend de l'énergie, ça nous prend du temps. Mais quand on se donne à Dieu, et on le verra, c'est le point qui va suivre. Quand on se donne à lui, il n'y a rien qui doit nous coûter. Et je vais continuer avant de passer au point suivant dans ses actions. Dans 1 Jean 3,17, il y a l'apôtre Jean qui s'adresse aux petits-enfants, aux jeunes chrétiens ou aux enfants. Ça va dans le même sens hein, que la foi et les œuvres. Où il leur dit, petits-enfants, dans 1 Jean 3,17, hein, pour ceux qui veulent aller voir, « N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » On peut dire, hein, je voulais prendre l'exemple aussi d'une fiancée qui dit à son fiancé « Ah, oh, je t'aime, je t'aime ». Et puis, ben, elle n'est jamais là quand il y a un rendez-vous. Oh, elle est fatiguée, elle était débordée, elle avait ci, elle avait ça, elle a toutes mille et une excuses. Bon, au bout d'un moment, le fiancé, il va se dire, bon, quand même, elle me dit qu'elle m'aime, mais je commence vraiment à me poser des questions. Vous vous diriez la même chose. Ben, avec Dieu, c'est pareil. On peut lui dire, ah, Seigneur, je t'aime, je te donne ma vie, je te loue, je t'exalte. Et puis si dans notre vie, il n'y a rien qui change, vous croyez que Dieu va nous croire? Vous pensez qu'il peut nous croire? Il sait en plus tout ce qu'on a dans le cœur. La bouche, ce qu'on dit de notre bouche, doit être ce qu'il y a à l'intérieur. On peut dire des choses et si, au fond, il n'y a rien d'autre, ce ne sont que des paroles en l'air. Et l'apôtre Jean le dit, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Donc la grâce nous pousse à la repentance. Elle fait naître la foi en nous. La foi implique les œuvres. On aborde la vie chrétienne, la mise en route. Et je vais continuer avec le point suivant qui va encore plus loin, beaucoup plus loin. C'est que la grâce de Dieu, si on l'a reçue dans notre vie, elle va nous pousser à faire des choses pour lui, j'aurais envie de dire entre guillemets, hein, c'est vraiment entre guillemets, pire encore, à nous donner entièrement à lui. Parce que Dieu ne se contente pas de petites bricoles qu'on va faire. Il veut plus. Il veut tout. Il veut tout. Il ne veut pas tout ce que tu as, hein. Il ne veut pas tout ton temps. Il ne veut pas tout ton argent. Il ne veut pas tous tes biens. Il veut tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Tout ton cœur. Toute ton âme. Tout ton être intérieur. Et quelque part, il sait que si tu lui donnes tout ton cœur, tout le reste lui appartient. Parce que c'est lui qui va te conduire. Si tu lui laisses le volant, c'est lui qui va conduire. Et il va tout avoir sous sa main, parce qu'il veut tout. Et ouais. Dieu veut tout ton être, tout ce qui est en toi. Dans Romains 6, 13, on va aller le lire. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Offrez-vous à Dieu. C'est pas offrir un petit peu. Donner un petit peu bah, pour le contenter. Dieu veut bien plus. Il veut tout. Il veut notre cœur. Et il y a un magnifique parallèle hein, dans 1 Corinthiens. Vous savez que l'Église, elle est appelée l'épouse de Christ. Et il y a le même parallèle à faire entre un couple dans l'épître de Paul aux Corinthiens où il est question du mariage, il est bien écrit que le corps de l'épouse ne lui appartient pas, il appartient à son époux. Et le corps de l'époux ne lui appartient pas, il appartient à son épouse. L'un se donne à l'autre dans cette relation. Et avec Dieu, c'est pareil. L'Église se donne à Christ comme Christ s'est offert à l'Église pour le salut des pécheurs. L'un s'offre à l'autre et l'autre s'offre à l'un. Et Dieu attend la même chose de chacun de nous. Ce n'est pas l'Église en général. Nous sommes les pierres vivantes de l'Église. Et chacun de nous, nous devons nous offrir à Dieu. Est-ce que dans cette grâce que nous avons reçue de Dieu, est-ce que nous en sommes arrivés à dire « Seigneur, tout appartient, là, mon cœur t'appartient, mon être, mes fibres, mon âme, tout est à toi. » Est-ce qu'on en est arrivé à ce don complet de nous-mêmes envers Dieu? Si on est arrivé à ce don complet de nous-mêmes à Dieu, alors quelque chose se produit. Dieu vient remplir l'intérieur complètement par son esprit. Et on arrive au point suivant, qui est que la grâce de Dieu, elle va nous pousser à l'abandon du péché. Parce que si on a donné l'intérieur à Dieu, il n'y a plus de place pour le péché. Et là, je vais faire un petit parallèle. Je vais vous raconter une petite expérience que j'ai faite avec mes élèves il n'y a pas longtemps pour la mise en évidence de l'air, de l'existence de l'air. Parce que ce n'est pas évident à des jeunes enfants de dire « bah ouais, il y a de l'air qui existe ». Eux, ben non, il n'y a rien. Ils ne voient rien. Et pourtant, l'air existe autour de nous, mais on ne le voit pas. Alors, je leur ai passé une belle vidéo que j'aime bien, qui est le saut en parachute de Timothée. Timothée, il a fait un saut en parachute il n'y a pas longtemps. Et donc, il a sauté de 4000 mètres. Il a descendu pendant 50 secondes de chute libre. Et il n'était pas dans le vide. Il était dans l'air. Et l'air, on le voit. On voit ses cheveux sur la vidéo qui bougent. On voit son pantalon qui bouge. On voit tous les vêtements qui claquent. Ça met bien en évidence que, ben ouais, il n'était pas dans le vide, il était dans l'air. Donc on a observé ça. Et puis, ensuite, j'ai dit à mes élèves, bon, bah, dans la classe, on a vu la vidéo, dans l'air, tout loin, là-haut, là, il y avait de l'air, et c'est ça qui faisait bouger les cheveux, qui faisait bouger les vêtements. Et dans la classe, est-ce qu'il y a de l'air? Alors, il y en a qui ont eu l'idée, ah ouais, on le sent là, on sent l'air. Et puis, après, on a avancé dans notre réflexion. Comment on pourrait faire pour retirer l'air de la classe? Alors, ils ont cherché, puis il y en a un qui a vraiment le chapeau. Il a été vraiment très bon. Il dit, ben, monsieur, il faudrait remplir la classe d'eau. Comme ça, l'air, il partirait. Parce que quand c'est rempli d'eau, il n'y a plus d'air. Ah, je lui ai dit, alors vraiment, tu as une super idée, toi. Ben, on ne va pas faire l'expérience, mais on va prendre une bouteille. J'avais préparé le coup, il y avait un aquarium, une bouteille. Et donc, je dis, ok. On va prendre une bouteille et on va imaginer que la bouteille, c'est la classe. Là, vous voyez, on est la bouteille en dehors de l'eau. Qu'est-ce qu'il y a dans la bouteille? Ben, monsieur, il y a de l'air. Il y a l'air de la classe. Puis ensuite, on a mis la bouteille dans l'eau. On a laissé l'air s'échapper en l'inclinant. Ça fait des bulles. La bouteille se remplit d'air. Et je ferme la bouteille dans l'eau avec le bouchon. On ressort la bouteille de l'eau. Qu'est-ce qu'il y a dans la bouteille? De l'eau. Est-ce qu'il y a encore de l'air? Non, il n'y a plus d'air, parce que l'eau a chassé l'air. Il y a la même logique par rapport à Dieu. C'est que si on lui a tout donné, l'air qui est en fait qu'on peut symboliser par le péché, si la bouteille se remplit d'eau, est-ce qu'il y a encore de la place pour l'air? Ben non. Comme Maxime l'avait très bien dit dans ma classe, l'eau, quand elle remplit la bouteille, elle chasse tout l'air. Eh bien, si Dieu vient nous remplir, et si on se laisse, c'est souvent là le problème, si on se laisse vraiment remplir par Dieu, il n'y a plus de place pour le péché. C'est biblique, hein. On va aller le lire dans Romains 6, hein, c'est pas bien loin. C'est un peu ce que Paul nous dit, hein. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Si on est rempli par Dieu, le péché ne va plus régner dans notre corps mortel. On va encore être en proie à des tentations. Hein. On l'a vu, les jeunes, il n'y a pas longtemps, hein, au Pulse. Mais si Dieu nous a remplis, l'effet de la tentation n'a plus de pouvoir sur nous. Parce que si on est rempli par Dieu, alors c'est mort. On ne va pas répondre à la tentation parce qu'il y a d'autres racines qui sont venues. L'air a été chassé. Et vous savez, dans la bouteille, si on essayait de se battre contre les molécules d'air pour les chasser sans l'aide de l'eau, qu'est-ce qui se passerait? On chasse des molécules d'air. Ben, dès qu'on en chasse une, il y en a une autre qui rentre, hein, parce que la nature a horreur du vide. Il faudrait faire le vide de la bouteille pour être débarrassé. Le problème, c'est que la bouteille, elle va tout se réduire. Le moyen le plus simple pour chasser l'air, c'est de laisser remplir par l'eau. Et là, c'est le miracle de la nouvelle naissance. Si l'eau remplit la bouteille, l'air, il sort. Et dans la Bible, à aucun moment, il nous est dit « Ah, de nous battre, de combattre contre tout ça avec nos propres forces !» On ne gagnera jamais contre le péché. On ne gagnera jamais contre le mal. On n'arrivera jamais à chasser les molécules d'air de la bouteille. Le seul moyen d'y arriver, c'est de se laisser remplir par l'eau. Et cette eau, ben, c'est la source de vie qui jaillit du cœur de Dieu et qui peut remplir les vases que nous sommes. Là, on arrive dans le langage biblique. Les vases que nous sommes doivent être remplis de l'eau, de l'huile qui descend, cette huile qui est le Saint-Esprit et qui vient nous remplir. Alors la question qu'on peut se poser, c'est où j'en suis? Où est-ce que j'en suis dans cet avancement? On a vu toute la succession hein, de tout ce qui se met en route et qui découle de la grâce. D'abord, la repentance. C'est le premier pas de la conversion. Hein. Et souvent, cette étape-là, on l'a fait dans les larmes, le jour où on se convertit. « Ah Seigneur, je suis touché par ton amour. Je suis mauvais. Pardonne-moi, viens-moi en aide. » On passe forcément par cette repentance. Et si tu n'y es pas encore passé, ben on ne peut que te dire « Cherche. Cherche encore. » Il faut que tu trouves ce moment. Il faut que ce moment arrive dans ta vie. Il faut que tu y sois passé avant de te retrouver au jour du jugement. Cette grâce, elle va nous pousser à croire en lui. Croire en lui fait naître la foi. La foi va faire naître les œuvres. Tout cela va nous amener à nous donner complètement à Dieu dans cette union avec lui. Comme le mariage, on se marie avec Dieu, comme l'épouse, l'Église. Nous allons vivre ce mariage quand Jésus-Christ va revenir. Ce don complet de nous-mêmes envers Dieu, l'abandon du péché, cette plénitude de la présence de Dieu dans notre vie qui va nous remplir d'une façon telle qu'il n'y aura plus de place pour le péché. Et je voudrais juste terminer par un point qui n'est pas le plus beau. C'est que ben, si ça te laisse froid, c'est pas bon. C'est très embêtant. Si cette grâce de Dieu te laisse sans réaction, on ne peut qu'être attristé. Dieu ne peut qu'être attristé. Parce que ben, il te fait un cadeau. Et délibérément, tu choisis de ne pas le prendre. C'est dommage, un cadeau comme on dit, dans le jargon humain, ça ne se refuse pas. Mais pourtant, il y en a beaucoup qui le refusent, ce cadeau. C'est un désintérêt pour l'amour de Dieu, l'absence d'amour pour Dieu. Et on sait où cette absence de réaction, de réponse envers Dieu, on sait où ça mènera, j'en ai parlé tout à l'heure, ça mènera à la privation éternelle de cette présence de Dieu dont on n'aura pas voulu de notre vivant. Quand la mort sera arrivée, on ne pourra plus revenir en arrière. C'est irréversible une fois la mort survenue. Et la balle, elle est dans notre camp. Dieu a tout fait. Et d'accord, il nous a donné la grâce. On aime l'entendre. Mais il y a un moment où il nous faut nous décider de la saisir, de la prendre à pleine main, d'en tirer vraiment bénéfice pour notre âme, pour notre être, pour notre salut. Parce que cette grâce, en fait, elle devient caduque si on n'en veut pas. Parce que, de la même façon qu'un mariage a besoin d'un homme et d'une femme, de la même façon, la grâce a besoin d'une réponse de notre part pour qu'il y ait cette union. Si on n'y répond pas, elle reste morte pour nous. Et ça, c'est bien dommage. Alors, je veux que ça tombe dans toutes les oreilles. Dieu attend une réponse de ta part. Il t'a fait un cadeau et tu vas devoir répondre à un moment. Alors, soit tu y réponds de ton vivant et tu vas vivre déjà le paradis sur terre parce que tu vas déjà découvrir cette relation avec ton époux céleste. Ou alors tu affronteras un jour sa colère, le jour du jugement. C'est vrai, ce n'est pas beau à entendre, on n'aime pas le dire, mais c'est pourtant vrai, c'est biblique. Et on voudrait tellement que tous entendent cette vérité et saisissent cette grâce que Dieu donne. Et il veut vraiment que toute cette chaîne se mette en route dans ta vie pour vivre une nouvelle vie pour lui. Il a tout fait. C'est juste à toi d'y répondre. On va s'arrêter là. Bien. Je ne vais pas déborder. Et ben, je vais juste prier courtement. Et puis on peut se mettre chacun devant Dieu. Et si ce n'est pas la première fois que tu entends parler de Dieu, de sa grâce, de son amour pour toi, libre à toi de répondre pour mettre en route, pour que cette grâce, elle devienne une réalité dans ta vie, quelque chose que tu as décidé de saisir, à laquelle tu as décidé de t'accrocher pour que ta vie puisse changer. Amen. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Notre désir, c'est que personne ici ne se prive de ta grâce. Seigneur, cette semence qui est semée chaque dimanche, nous voulons qu'elle tombe dans une terre, une bonne terre, où elle germe. Et nous te prions pour que il y a un écho à ta voix, un écho des cœurs, et qu'il y ait des vies qui se donnent à toi, Seigneur, en réponse à ce merveilleux cadeau que tu as offert à toute l'humanité. Merci pour ta grâce, Seigneur, et merci pour tout ce qui découle de ta grâce. Amen.